Aujourd'hui, la masterclass de Jean Rollin avec Olivia Gesbert.
Bonjour à tous, on poursuit donc aujourd'hui notre série de masterclass main dans la main avec la BNF et le CNL, le Centre National du Livre, avec un crayon ou sur un ordi à l'horizontale ou à la verticale, plutôt du soir ou du matin. Libre cours à son imagination, grand travail de documentation à la fin de cette heure. Logiquement, vous saurez tout de la fabrique de l'œuvre de Jean Rollin, du processus d'élaboration de ses romans. S'il accepte de nous en livrer ses secrets de fabrication, s'il accepte de se livrer tout court, peut-être. Jean Rollin, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, vous êtes l'auteur d'une œuvre protéiforme, des romans, des récits, de voyages, des nouvelles, plus de 20 livres depuis le premier, Chemin d'eau, en 1980, dont La ligne de front, prix Albert Londres, L'organisation, prix Médicis, Terminal Frigo, Le ravissement de Britney Spears, Savannah, Peleliu, fidèle à POL aussi, votre éditeur, écrivain des marges, comme on vous présente, écrivain globetrotteur, surtout, vous avez fait le tour du monde, Jean Rollin, et pas que dans les livres. On vous dit volontiers mélancolique, à l'humour mordant, comme un chien errant. On va voir, vous allez peut-être nous le prouver, journaliste. D'abord, vous avez réalisé aussi de nombreux grands reportages pour la presse, avec des débuts en Irlande. Journaliste un jour, journaliste toujours. Est-ce que la démarche journalistique, Jean Rollin, a beaucoup déteint sur celle du romancier ?
Oui, très probablement. Enfin, et vice-versa, si je puis dire, puisque en fait, j'ai commencé les deux en même temps. J'ai pas fait d'abord, comme me semble-t-il, c'est l'usage, mais après tout, peut-être pas d'ailleurs. J'ai pas fait d'abord du reportage pour m'arrêter un moment pour écrire des livres. Si on veut chronologiquement, oui, j'ai commencé à faire du reportage en 1973, je me souviens de la date, parce que c'était à l'occasion des troubles entraînés en Irlande du Nord par ce qu'on a appelé l'introduction de l'internement, donc ça avait suscité des troubles assez considérables, principalement à Belfast, à Londonderry. Et donc à ce moment-là, je suis parti sans aucune formation particulière, sans contact non plus particulier, avec l'idée de devenir reporter. Je l'ai été pendant un temps assez bref, c'est-à-dire que comme il se passait un tas de trucs en Irlande du Nord et qu'il n'y avait pas tellement de presse, j'ai réussi avec un ami photographe, mais qui n'était pas plus photographe que moi, je l'étais journaliste, rédacteur. On a réussi à faire des choses qui ont assez bien marché, donc on s'est dit que c'était parti, quoi. Et puis en fait, l'année suivante, la fièvre est un peu retombée, les événements étaient moins dramatiques, il y avait moins de morts, peut-être même il n'y en avait-il pas du tout, donc ça n'intéressait plus personne. On s'est rendu compte que voilà qu'on n'y arriverait pas, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné, mais toujours d'ailleurs surtout des travaux d'écriture, mais un peu mercenaires, enfin ce que j'appelle de la polygraphie, j'ai travaillé pour les encyclopédies, etc. Et puis en 1980, j'ai renoué cette fois de manière durable ou définitive avec le reportage, et en même temps j'ai publié en effet un premier livre, qui d'ailleurs était je pense que il n'est pas indifférent de le signaler, c'était un ouvrage de commande.
Le premier,
oui. C'est pas un truc qui a germé dans ma tête, c'est un livre qu'on m'a commandé, sur un sujet pour lequel je pensais être à peu près compétent, qui impliquait des déplacements à pied, à bicyclette, en bateau, voilà, ça me plaisait bien, ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai qu'à défaut de cette commande d'un livre, peut-être n'aurais-je jamais écrit de livre, peut-être me serais-je contenté de faire des reportages.
Heureusement, il y a eu cette commande. Il n'y en a pas eu d'autres ou il y en a eu d'autres après des commandes? Après, c'était une envie qui était la vôtre?
Non, après, à partir de la publication de ce livre, évidemment, j'ai un peu changé de statut, si vous voulez, donc c'est pas... Après, c'était des sujets, des thèmes que je proposais.
Il suffit d'un livre pour devenir écrivain. Qu'est-ce qui fait l'écrivain pour vous, Jean Rollin? Vous dites que vous avez changé de statut à partir de la publication.
Ah non, mais j'ai changé de statut. Enfin, là, je parlais simplement de, en termes bêtement professionnels, quoi. J'avais écrit ce livre, il a eu une assez bonne presse. En particulier, d'ailleurs, grâce à un écrivain que j'aimais bien et qui était, je crois, en plus un homme très sympathique, qui est mort, qui s'appelait Jacques Lacarrière, moi. Et enfin, c'est une... oui, bon. En fait, on a la personne qui était pressentie pour écrire ce livre, qui était une espèce de description du réseau navigable en France, enfin une description pittoresque, hein, pas une description technique. C'était Jacques Lacarrière, parce qu'il avait fait auparavant un livre qui s'appelait Chemin faisant. Il avait traversé la France sur des sentiers. À l'époque, c'était assez inhabituel. Son livre est très bien marché, et donc le même éditeur, en l'occurrence Nicole Lattès, lui a demandé de refaire le même coup avec les canaux. Il a dit non, ça va, j'ai fait des sentiers, je vais pas faire des canaux. Et je
mais
ne sais pas.
Ça s'est quand même appelé Chemin d'eau.
Ça s'est appelé Chemin d'eau, oui. Et donc la carrière a fait, ça je m'en souviens très bien, un papier dans Le Monde extrêmement élogieux, ce qui était bon. Enfin, c'était très sympathique de sa part, en dehors du fait que je pense que c'était sincère parce qu'on se connaissait pas du tout, donc il n'avait pas de raison particulière de le faire. Et voilà, donc du coup, il y a eu un peu de presse, un peu de d'écho autour de ce livre. Donc c'est vrai qu'après, on m'a proposé des choses. C'est pas, voilà, on m'a proposé des choses, on m'a pas proposé des ponts d'or. Hein, mais si, enfin, c'est assez marrant aussi, d'ailleurs, comme quoi ma trajectoire aurait pu se... Enfin, j'aurais pu être totalement dévié de ma trajectoire. C'est que c'était pas un pont d'or, mais la seule situation que l'on m'ait proposée à la suite de la publication de Chemin d'eau, c'était, bon, j'espère qu'il n'y a aucune représentant de ce magazine dans la salle, d'ailleurs je ne vais rien dire de méchant, mais c'était Go et Mio. Go et Mio m'a proposé de travailler pour eux. Voilà, j'étais un peu épaté, quoi, puisque je pensais que c'était un journal gastronomique. Et donc je voyais pas ce que j'avais à faire là-dedans, mais en fait il y avait une dimension de voyage, bon, chez Go et Mio. Et donc j'ai commencé à travailler pour eux, et mais je réponds peut-être trop longuement, enfin je répondrai plus brièvement à d'autres questions, là c'est juste l'histoire de mes débuts, quoi. Non, je sens déjà on a fait un frémissement d'indignation dans la salle, mais voilà, bon bref, ça me fait marrer, moi, de penser que j'ai failli me retrouver critique gastronomique, quoi. Enfin c'est... Et je serais maintenant probablement obèse, riche, célèbre peut-être. J'aurais écrit des guides comme le Pudlowski ou que sais-je. Bon, voilà, mais bon, Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Je me suis engueulé avec eux assez vite et j'ai fait autre chose.
Et malheureux, qui sait. Donc voilà, naissance d'une vocation, écrivain de commande, écrivain un peu par défaut, malgré tout. Je vais quand même poser la question. De l'article au roman, il y a quand même une centaine de feuillets ou des centaines de feuillets de différence, hein, Jean Rollin. Alors, ce passage de l'un à l'autre, ça relevait quand même pour vous, à un moment de quoi ? D'une envie d'étirer votre pensée, d'allonger le récit, de sortir du réel quelque part ? Quelle était l'envie première dans ce passage à la fiction ?
C'est pareil, j'ai toujours du mal à répondre de manière théorique, enfin, ou peut-être simplement de manière intelligente, je répondrais de manière chronologique. À la suite de ce premier livre, j'ai fait une chose qui, à vrai dire, a des rares rêves d'enfance que j'ai réalisés. Je rêvais d'embarquer durablement sur un cargo et j'ai pu le faire par la suite. J'ai embarqué quelques mois sur un cargo et j'ai écrit là un texte de fiction, enfin une relation de cet embarquement qui est absolument fictive, enfin qui est appuyée sur des données réelles, en particulier techniques, parce que j'ai toujours été assez soucieux, bon, d'être exact, hein, s'agissant de techniques diverses, celle de la navigation par exemple, ou du commerce maritime, mais enfin c'était vraiment de la fiction, quoi. Donc il n'y a pas eu de... Je ne sais pas, c'est pas parce que j'écrivais trop de reportages que j'ai eu tout d'un coup l'envie de faire de la fiction. Je veux dire, tout ça a commencé en même temps, quoi. Et d'ailleurs, le livre que j'ai tiré de cet embarquement, qui s'appelle Le Journal de Gangs Aléoutiennes, et bon, peut-être un des plus fictifs ou un des plus farfelus, en tout cas, que j'ai écrit, quoi. Donc c'est pas la confrontation avec le réel qui, à un moment donné, vous donne envie de vous échapper vers la fiction. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Les deux choses cohabitent, quoi.
Alors, vrai faux voyage avec ce livre qui paraît en 82, du coup, sur cette question de la vocation, la mer scintillait bleu parfaitement lisse, avez-vous écrit, des cités portuaires de Terminal Frigo paru en 2005, au cargo de l'explosion de la Durite paru en 2007, vous cachez pas quelque part que vous auriez pu être un capitaine au long cours, c'est-à-dire avoir une toute autre vocation que celle du métier de plume, non ?
Oui, enfin ça, je dis, mais tout à fait impossible de dire si j'aurais pu être un bon capitaine en cours. J'en sais fichu rien.
Vous auriez pu en être un.
Je sais que c'est. Je sais, bon, et à la longue et vu l'âge que j'ai atteint de manière absolument indubitable, que c'est un métier que j'aurais aimé faire. Bon, voilà, en plus, j'ai passé. Bon, enfin, mon expérience maritime est limitée, mais j'ai quand même passé assez de temps sur des bateaux pour savoir que ça me plaît. Et qu'en plus, les inconvénients qu'on souligne, à juste titre, probablement. Enfin bon, moi, le fait d'être privé de vie de famille, ça m'aurait pas vraiment gêné, puisque j'en ai jamais eu. Pour le reste, d'être longtemps éloigné, etc., ça me plaisait. J'aime effectivement beaucoup la mer. Je ne souffre pas, semble-t-il, du mal de mer. Enfin, il y a encore un truc que j'ai pas fait, mais que je ferai peut-être, d'ailleurs, prochainement, grâce à un auteur, POL, d'ailleurs, qui s'appelle Belin. C'est il y a un type de navire dont je n'ai pas l'expérience, c'est la pêche, quoi. Or, c'est quand même un pan extraordinairement important de l'activité maritime. J'ai toujours eu le désir d'embarquer sur un chalutier, ça j'ai jamais fait. Je le précise à propos du mal de mer, parce que je pense que c'est relativement facile de ne pas avoir le mal de mer tant qu'on n'a pas embarqué sur un chalutier, quoi, et qu'on a l'odeur à la fois du poisson, du gasoil. Si on résiste à ça, alors on peut dire qu'on n'a pas le mal de mer.
Quel est le point de départ de vos livres, Jean Rollin? Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même en général les cartes, les maps mondes, et sur ces espaces, somme toute assez inconnus, le choix d'espaces singuliers, peu visités, ou en tout cas que votre imaginaire aimerait rencontrer ou découvrir, ça part d'un territoire en général?
Oui, enfin, plus d'ailleurs, je crois, dans des livres plus récents, enfin, notamment dans les livres que j'ai écrits chez POL. Puisqu'auparavant, j'en ai écrit donc bien chez Nicole Lattès, et puis chez Aquet Voltaire, et puis chez Gallimard. J'espère que je n'en oublie pas. Bon, mais est-ce que ça partait d'un... J'aime énormément la lecture des cartes. Oui, j'aime énormément ça. Moi, ça me fait même une espèce d'équivalent du voyage. Enfin, au point que là, peut-être aussi parce que j'ai pris un coup de vieux, mais là, je prépare un possible voyage dans une contrée assez lointaine. Et donc, je me suis procuré des cartes de la région en question. Et je me dis qu'au fond, je pourrais m'en tenir là, quoi. Voilà, voilà, je suis content. Les rivières, les montagnes, les étendues de forêt, bon. Mais c'est pas vraiment un point de départ. Les points de départ sont différents, ils sont aléatoires, ils changent beaucoup. Enfin, c'est souvent quand on écrit un livre qu'on a l'idée du suivant, ou a fortiori d'ailleurs là, enfin sur l'échange entre reportage et écriture de livre, je pense, mais il faudrait que je retrouve des exemples précis, mais c'est très souvent en reportage que j'ai eu des idées ou des envies, des projets de livres, quoi. Je prends un exemple, par exemple, parce qu'il est flagrant pour moi. En tout cas, c'est j'ai été envoyé spécial d'un journal en Palestine, dans les territoires, pendant la première guerre du Golfe. Et ça m'avait laissé, enfin, la rapidité avec laquelle on doit travailler quand c'est pour un quotidien, bon, rythme dans lequel moi je n'excelle pas, bon, m'avait donné envie d'approfondir quelque chose, bon. Et donc je suis retourné après pour écrire un livre, enfin je suis retourné beaucoup plus tard, hein, pour écrire un livre centré sur les chrétiens palestiniens, hein. Et je sais que cette idée m'était venue parce qu'en reportage, voilà, j'avais traversé à toute vitesse Bethléem, par exemple, qui est quand même un lieu symboliquement, historiquement, extraordinairement important. Et je me disais, tiens, ben voilà, j'aimerais bien aller passer un mois à Bethléem, ce que j'ai fait, là. Et ça, c'est un truc que vous pouvez difficilement faire pour un journal. Mais enfin, c'est un exemple un peu isolé. Je suis pas sûr d'avoir d'autres exemples d'une telle conséquence entre un reportage et un livre.
Et ça a donné en tout cas Chrétien avec un S, paru en 2003, Jean Rollin. Mais vous dites que vous n'êtes pas un écrivain voyageur comme Jack London, comme Kessel, comme Conrad, que vous adorez, comme Nicolas Bouvier, comme Kapuscinski ou tant d'autres, mais un écrivain qui voyage. C'est quoi la différence?
Oui, alors, comme Conrad, ça va, il n'y avait pas de problème. Hein, si c'est écrivain voyageur comme Conrad. Oui. Non, je veux dire, d'abord, Conrad n'est pas un écrivain voyageur, je pense qu'il a... c'est un écrivain qui a voyagé. Voilà, c'est vrai que je préfère sans du tout songer à me comparer à Conrad, mais je préfère être un écrivain qui voyage plutôt qu'un écrivain voyageur. Voilà, je dis ça en toute amitié pour Michel Lebris et pour le Festival de Saint-Malo, hein, mais c'est-à-dire qu'on a regroupé sous cette rubrique toutes sortes de choses qui n'étaient pas toutes du même niveau. Bon, et puis par ailleurs, j'ai pas fait exactement le compte, mais enfin, je pense que près de la moitié de mes livres se déroulent dans des décors qui sont pas du tout exotiques, enfin, qui sont peut-être exotiques, mais qui sont proches, en tout cas, bon, à Paris ou dans la banlieue parisienne ou dans les ou sur des sites portuaires en France, etc. Quoi. Donc c'est pas forcément une recherche du lointain. Même si je ne cache pas que pendant longtemps j'ai aimé voyager, quoi. Mais enfin, j'ai surtout aimé voyager parce que justement j'avais une idée de ce que je voulais rapporter de ce voyage, quoi. Pas seulement pour voir des choses lointaines et pittoresques.
Alors, si c'est pas une recherche du lointain ou une découverte de l'autre, c'est quoi? C'est un voyage intérieur que vous faites à travers ces différents territoires. Il y a quand même l'idée d'arpenter un territoire qu'on retrouve beaucoup dans vos livres, que ce soit plus sous la forme du récit que du roman, des descriptions extrêmement détaillées. Il y a quand même ce plaisir de la découverte, non?
Ah oui, non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas ce plaisir de la découverte.
D'accord, tout va bien.
Pas du tout, non. Mais je n'ai pas nié non plus, je n'ai pas dit, non, parce qu'en plus je me ferais mal voir si je disais une telle chose, mais même en dehors du désir de ne pas me faire mal voir, j'ai quand même évidemment un certain intérêt pour les gens que je rencontre en voyageant. Je veux dire, si là j'ai pris l'exemple des chrétiens palestiniens, voilà, c'est quand même bien eux plus que le décor dans lequel ils vivent que j'allais voir.
Masterclass spécial Jean Rollin, on est avec vous pendant une heure, cher écrivain, étranger dans sa propre ville, comme dans Zone, un passant du boulevard du Maréchal Ney dans la clôture, commentateur anonyme dans la traversée de son propre pays en ruine dans les événements, étranger à vous-même quand vous écrivez, vous diriez ça, Jean Rollin, ce jeu de la narration que vous employez souvent, pas tout le temps, fonctionne comme une sorte de mise à distance, comment vous le pensez, ce narrateur qui vous ressemble pourtant?
Oui, enfin, étranger à soi-même, c'est beaucoup dire. Dans quelle mesure peut-on être complètement étranger à soi-même? Bon, à moins d'être sous l'empire d'un champignon hallucinogène, comme dirait Mélenchon. Bon, on n'est jamais vraiment étranger à soi-même. Mais non, j'essaie de me mettre dans des situations, sinon dans des états où je suis simplement coupé de mes racines, de mes tentacules aussi, de mon environnement habituel, quoi. Dans l'exemple de Zone, par exemple, c'était ça avait un caractère particulièrement expérimental, puisque c'était entièrement, non pas même d'ailleurs en banlieue, enfin c'est partiellement en banlieue, mais partiellement aussi dans Paris intramuros, de vivre à Paris uniquement dans des hôtels sans jamais voir ni même appeler dans toute la mesure du possible les gens que j'y connaissais, etc. Quoi. Donc je pensais que... Enfin, j'avais imaginé ça sous une forme même plus radicale au début, qui était d'aller vivre dans un hôtel très proche de mon domicile. À l'époque, il y avait encore des hôtels très bon marché à proximité de mon domicile, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. Imaginez que ce basculement de rien du tout vous faisait voir le monde de manière complètement différente, quoi. Du moment que vous n'étiez pas chez vous, dans tous les sens du mot, quoi. C'est pas seulement la chambre, etc., mais c'est que, voilà, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de relations, vous percevez forcément la ville de manière très différente.
Alors si on fait justement un zoom sur Zone ou un zoom sur Clôture, vous vous souvenez comment est née l'idée exactement?
C'est ces deux projets, enfin, même si par moments ça se recoupe, notamment les territoires se recoupent de Zone et de la Clôture, enfin se recoupent partiellement, ces deux projets complètement différents. L'un, Zone, est un projet assez égoïste, enfin je veux dire c'est un projet égoïste dans la mesure où il s'agissait de traiter un peu ma mélancolie, pour ne pas dire ma dépression, quoi. Enfin j'étais dans un état où il était assez dépressif. Et c'est typiquement un projet qu'on peut former dans un état dépressif. Hein. Déjà, on n'est pas bien. En plus, on s'interdit de voir les gens qu'on connaît, etc. C'est voilà. Donc, on s'enfonce un peu plus dans la dépression. Alors que là, mais je veux dire, tout en étant justement attentif au monde, hein. c'est pas du tout un truc de repli sur soi. Mais la Clôture est un projet plutôt optimiste. Enfin. Qui me refait passer par les mêmes endroits, mais qui est très différent, puisque il y avait une dimension historique aussi dans la Clôture, puisque je raconte des pans de la vie du maréchal Ney. Enfin, c'est un travail sur une section des boulevards extérieurs à Paris, et plus particulièrement sur celle qui est nommée d'après le maréchal Ney. Voilà. Et à la fois l'histoire de Ney et l'histoire du boulevard aujourd'hui. Et donc là, ce qu'il y a de commun avec Zone, c'est que, en effet, je passais beaucoup de temps sur le terrain. Enfin, cette expression m'exaspère, puisque maintenant tout le monde va sur le terrain, y compris en particulier les politiques. Bon. Mais enfin, c'est quand même aussi comme ça que ça s'appelle, comment ? Donc il y a cette dimension qui est commune avec Zone, c'est de terrain et d'essayer d'habiter localement dans des hôtels, etc. Littérairement et même moralement, si je puis dire, c'est un autre projet.
Donc avec Zone, vous traitez votre dépression, en tout cas vous essayez de vous en débarrasser d'une manière bien à vous. Mais à quel moment vous décidez que ça peut faire livre, c'est-à-dire aussi que ça peut intéresser vos lecteurs ?
Mais je sais pas, ça c'est très difficile. D'abord, on est souvent incapable de le décider soi-même. Non, parce que je pense à Fabance. Après les gens vont penser que je suis vraiment un grand déprimé, ce qui malgré tout n'est pas le cas, mais j'ai écrit un autre livre dans un état dépressif. Je sais plus exactement quel était le contexte, là, mais j'ai à vrai dire, c'était même... quand j'ai écrit Zone, j'étais dans un état de très grande tristesse, ce qui n'est pas exactement la même chose, lié à quelque chose de précis, bon, à la perte de quelqu'un. Quand j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Traverse, où là, j'étais vraiment dépressif. Alors pourquoi, je sais plus, quoi. Mais quoi qu'il en soit, et là, c'est pareil, donc c'est une espèce de trajectoire en zigzag à travers la France, dont le prétexte était tout à fait d'ailleurs pertinent, je pense, à l'époque, c'était ce qui me fascinait, on voit bien qu'en cela j'avais raison, même si c'est pas très original, c'était les ruines des grandes industries de main-d'œuvre, et plus particulièrement les ruines de la sidérurgie. Bon. Et avec notamment une cible qui était Denain. Bon, maintenant, on parle beaucoup de Denain dans les reportages préélectoraux, etc. Donc, on voit bien, en effet, l'espèce de cataclysme qui a frappé cette ville, qui était l'image même d'une ville ouvrière hyperactive. Donc, la vie était rythmée par les coulées d'acier, etc. Bon, et qui est devenue un no man's land de misérable. Voilà, les gens ne trouvent d'autres refuges que dans les bras du Front National. Enfin bon, bref, donc c'était ça, un moment où ce déclin, où cette disparition, notamment de la sidérurgie, n'était pas encore absolument consommée. Bon. Et c'était ce processus que je voulais étudier. Enfin, je t'ai donné ce prétexte, mais en vérité, je voulais aussi soigner ma mélancolie. Bon. Et donc, je me suis baladé comme ça, de manière assez aléatoire, à travers la France. Et je réponds, en dépit des apparences, à votre question, parce que là, je sais que quand j'ai terminé ce livre, donc là, en l'occurrence, il était pour Nicole Lattès, je trouvais que c'était absolument désastreux, quoi. Je pensais que c'était en effet que ça pouvait présenter un certain intérêt clinique, mais que ça valait rien. Bon, et je me souviens très bien de lui avoir remis avec un mot d'excuse, parce qu'évidemment je lui avais quand même piqué un peu d'argent pour faire ce truc. Et je lui dis que j'étais dans l'incapacité de lui rembourser cette somme, mais que par ailleurs je me rendais bien compte que ce que j'en avais retiré était absolument impubliable, vraiment. Et je pensais sincèrement, c'était pas du tout par coquetterie, quoi. Je pensais vraiment que c'était impubliable. Et en fait, bon, elle a trouvé ça très bien. Et moi, maintenant, je trouve ça pas mal, quoi. Donc, c'est difficile à dire, quoi. Enfin, il y a des livres qu'on trouve bien quand on les a écrits, quand même plutôt bien. Je pense que quand on a un cahier des charges assez précis et qu'on s'y tient, alors quel que soit le niveau d'exigence de ce cahier des charges, hein, il peut être oulipien, quasi oulipien, ou beaucoup plus, beaucoup moins strict, beaucoup moins rigoureux. Mais si on a, ou simplement, on va dire la chose plus simplement, un projet, quoi, un projet qui est scandé par un certain nombre d'étapes, etc., et qu'on a l'impression de s'y être tenu, me semble-t-il, hein, pour moi, en tout cas, je suis généralement satisfait. Moi.
Mais qui vous le donne, ce cahier des charges ? Vous l'écrivez vous-même, ce cahier des charges, ou
non,
parfois il arrive que...
Non, je n'écris jamais de plan, c'est dans ma tête.
On a bien compris.
Et je veux dire, par exemple, la clôture, c'est justement là l'idée de faire tenir ensemble la vie du maréchal Ney et celle du boulevard aujourd'hui. Bon, je pensais que ce pari était à peu près tenu. Donc, je ne pense pas avoir eu de grands doutes sur le livre.
Donc, commencez avec une trame.
Quand ça part un peu dans tous les sens, quand ça vous échappe, c'est très difficile, quoi, de déterminer soi-même si c'est bien ou pas.
Vous commencez avec une trame, vous commencez avec un point de départ, et vous avez un point d'arrivée quand vous commencez à écrire, Jean Rollin.
Pas nécessairement, non. J'ai une idée, vous voulez dire la façon dont ça se termine Oui, souvent j'en ai une idée, mais je peux parfaitement dévier de cette trajectoire.
Ça donne les meilleurs livres quand on dévie de la trajectoire qu'on s'est fixée?
Non, non, c'est pas difficile forcément à lire. Je sais pas ce qui est mieux, quoi. Je vous dis, c'est plus facile de juger de son propre travail quand on n'a pas dévié. Voilà. Mmh. Mais en même temps, peut-être que c'est parfois mieux quand on dévie. Il y a pas de...
Bon, déviant, pas trop. Obsessionnel, oui, un peu, quand même, Jean Rollin. Est-ce qu'il y a des obsessions qui vous guident dans votre désir, envie d'écrire?
Oui. Oui, il y a sûrement des obsessions pour un certain type de lieu, un certain type d'environnement, un certain type de démarche aussi, arpenter. C'est vrai que j'ai vraiment besoin. Alors, c'est, au départ, en plus, ça fait comme beaucoup de choses. D'ailleurs, ça procède d'un handicap, c'est-à-dire du fait que je ne sais pas conduire et que je n'ai jamais appris, non pas par volonté de ne pas savoir conduire. Je ne suis pas écologiste à ce point-là, quoi. C'est pas par souci de l'environnement, quoi. C'est juste par j'ai su vaguement conduire quand j'avais 20 ans. J'ai conduit un peu sans permis, mal et dangereusement, je pense. Bon, donc j'ai arrêté. Et après, toute ma vie, enfin, y compris dans mon travail de reporter, j'ai dû faire avec cette absence de permis de conduire. Et que je vivais comme un handicap assez lourd, qui l'a été parfois, et qui, en fait, a toujours, et presque toujours, entre autres choses, à l'origine des livres que j'écris. Bon, je pense à l'exemple plus récent qui est Los Angeles, par exemple. C'est vrai que je pense que j'aurais pas vu grand-chose à Los Angeles si j'avais pu louer une voiture et circuler dans Los Angeles avec une voiture. Et donc finalement tout le ce que j'en ai fait de ce séjour à Los Angeles, ça tient beaucoup au fait que je ne m'y déplaçais qu'à pied ou par des moyens de transport public.
Donc Sunset Boulevard à pied en fait.
Oui, enfin c'est difficile. Je peux pas dire que j'ai fait tout Sunset Boulevard à pied. Enfin c'est pas au-delà des forces humaines, hein, mais j'en ai fait une grande partie à pied, mais aussi en bus.
On cite encore cet agent secret dépressif. Là, c'est vous qui l'avez imaginé, hein. Je ne sais pas de quel état lui est sorti, qui est effectivement chargé d'enquêter sur une menace d'enlèvement d'une idole des jeunes, la fameuse Britney Spears. Ça donnera le héros, hein, du ravissement de Britney Spears. Alors lui, de quoi il est sorti, ce personnage de polar mélancolique, de ce roman assez truculent, d'une photo de Britney Spears que vous voyez dans la presse?
Ah, le projet de... Le personnage, c'est encore une autre histoire, mais le désir que j'ai eu d'écrire un livre sur Britney Spears, oui, alors je ne sais pas très bien à quoi ça tient. C'était un double défi. Enfin, évidemment, on peut se lancer des défis encore plus audacieux, hein, mais le double défi, c'était d'une part de me confronter à Los Angeles, où on m'avait toujours dit certes, j'avais réussi à faire un tas de trucs sans savoir conduire, mais alors qu'à Los Angeles, là, j'allais comprendre ma douleur. Donc, voir si c'était vrai qu'on ne pouvait rien voir et rien comprendre de cette ville sans une voiture, sans une automobile. Et l'autre truc, c'est que bien entendu, le milieu que je décris le milieu de Britney Spears, quoi, le milieu, donc, du showbiz, m'était quand même, assez largement étranger. Bon, et en même temps, non pas que j'ai pris ça pour un appel du destin, mais c'est vrai que j'avais croisé, si je puis dire, à différentes reprises sous forme de clip, la trajectoire de Britney Spears, et que je ne l'avais pas trouvé sans attrait. Bon, donc à la fois c'était un personnage, enfin elle se mouvait dans une sphère qui n'était absolument pas la mienne, et à laquelle je n'ai pas tenté d'ailleurs d'avoir accès, mais elle-même au fond me plaisait assez. Voilà, donc c'est... Et puis là, c'est toujours intéressant, quoi. Je mets de la confrontation à l'autre. En général, c'est toujours envisagé comme pratiquement comme une œuvre de charité. Enfin, il faut aller au devant de l'autre. Il faut être. Mais dire l'autre, c'est aussi, par exemple, l'autre, ça veut, strictement, ça veut dire ceux qui vous aiment sont complètement étrangers. Alors, en l'occurrence, j'ai fréquenté des gens, par exemple, des paparazzi. Je n'imaginais rien a priori qui me fût plus étranger. Bon. Et en fin de compte, là aussi, on peut avoir de bonnes surprises, puisque je suis tombé en particulier sur deux paparazzi brésiliens qui correspondaient tout à fait à l'idée que je me faisais 20 ans plus tôt du prolétariat, enfin qui étaient en effet des représentants d'un nouveau prolétariat, mais qui présentaient peut-être d'autres qualités que l'ancien, mais des qualités également notables, quoi. Là, je suis peut-être un peu éloigné de la question. Mais
non, on vous dit plus. Gros bosseur, on vous dit méticuleux. J'avais juste envie de savoir, vous pouvez nous chanter maintenant du Britney Spears après ce projet?
Tout à l'heure, après la séance.
Non, faites-en profiter la salle. qui est pour...
Non, je vous chanterai plus volontiers. On a évoqué le prolétariat, je peux vous chanter La Jeune Garde, par exemple. Bon, voilà.
On vous écoute.
Oui, mais non. Je dis plus volontiers, ça ne veut pas dire que je le ferai volontiers.
Vous avez cité deux mots tout à l'heure, champignons, hallucinogènes, l'ivresse, les drogues. Vous avez aussi commencé à écrire pendant cette période de la Beat Generation, et dans les années 70, post-68, aussi.
C'est discourtois. Pardon, je voulais juste dire que la Beat Generation, c'est antérieur quand même.
Oui,
j'étais un lecteur de la Beat Generation, oui, mais...
Aussi, il y avait une vision romantique pour vous de l'écriture ?
Il y avait une vision romantique, en tout cas, de la vie qu'on menait, oui, ça c'est sûr, oui. Principalement, c'est pas le confort qu'on recherche dans les drogues, par exemple. Bon, ça peut parfois être très confortable, ça peut parfois être très agréable, mais enfin, c'est quand même plutôt une forme d'inconfort qu'on recherche. Bon, donc c'est une posture romantique, oui, c'était fait. Bon, j'ai expliqué ça un peu dans l'organisation, je pense. Mais d'ailleurs, à l'époque où je l'ai faite, je trouvais cette analyse très originale. Puis finalement, je pense qu'elle ne l'est pas tellement et que d'autres l'ont faite. Mais pour des gens qui avaient été impliqués dans des expériences politiques extrêmes et qui en étaient revenus, le truc le plus extrême qui se présentait à ce moment-là, enfin, c'était soit le banditisme, mais bon, comme quelqu'un l'a noté, j'ai jamais été très attiré par la violence, soit la drogue, effectivement. C'était quelque chose qui permettait de persister dans une exclusion complète de la société. Enfin, ce que nous représentions comme la société et ce que nous n'aimions pas, nous persistions dans un rapport d'exclusion et de désamour mutuel à travers la drogue, quoi. Dire les choses plus simplement, la société à l'époque n'aimait pas plus les drogués qu'elle n'avait aimé les militants d'extrême gauche. Voilà.
Non, mais est-ce que la littérature les aime ? Est-ce qu'on écrit mieux dans un état second ? Jean Rollin, j'imagine que vous avez testé les deux situations, perché dans un paradis un peu artificiel. Est-ce que c'est vrai que... Moi, c'est un peu l'image qu'on en a, que ça développe l'imagination.
Non, ça, j'y crois pas du tout. Je parlais de la... du romantisme de la posture, enfin de se tenir, de se maintenir dans un écart semblable, enfin à peu près aussi large, pour des raisons différentes, mais tout, même dans la relation avec la police, par exemple, dans le fait d'être de persister dans une activité illégale et clandestine, c'était une chose très importante, je pense. Enfin, je me souviens des images qui m'ont frappé, on pourrait retrouver dans certains films d'ailleurs, mais de se déplacer la nuit dans des automobiles avec la crainte d'être contrôlé. Voilà, tout simplement, ça fait partie des choses que je me souviens d'avoir recherché et crainte, quoi. Bon, bref, et qui étaient tout à fait semblables dans les deux dispositifs, celui du militant et celui de l'addict. Mais alors, en revanche, je ne crois pas du tout. Enfin, je veux dire que ça peut nourrir à terme, comme n'importe quelle expérience, d'ailleurs, un travail littéraire, mais ça n'est pas du tout propice à l'exercice de ce travail. Enfin, ça, je n'y crois pas un instant. Bon, je sais que un certain nombre de grands écrivains, peut-être pas tant qu'on le pense, d'ailleurs, beaucoup de grands écrivains ont énormément picolé, ça c'est une chose, oui, mais est-ce que beaucoup ont écrit des choses géniales sous l'empire de l'alcool ? J'en suis pas sûr, hein. Même Laurie, est-ce qu'il écrivait tellement quand il était bourré ? Je pense qu'il écrivait plutôt quand il avait des saoulés, vraiment. Et la drogue, n'en parlons pas, je veux dire. Bon, bien sûr, quand on prend, par exemple, des drogues hallucinogènes, oui, si on voit des trucs étranges et beaux, quelquefois, on peut même imaginer que ça vous donne une... ça vous fait percevoir des aspects de la réalité que vous ne découvririez pas sans cela. C'est pas la réalité, d'ailleurs, mais enfin, peu importe, ça vous fait découvrir des aspects du monde... que vous ne découvririez pas sans cela. Mais ça n'est pas du tout... Enfin, moi, je n'ai jamais... Les trucs que j'ai écrits, bien entendu, j'écrivais des trucs en état d'ivresse, ou cachant sous l'empire d'autres substances, mais c'était... Voilà, quand je relisais ça à tête reposée...
Vous étiez effrayé.
Je pouffais de rire et je le balançais. Quoi. C'est un truc... En plus, on retombe en enfance. Enfin, ça, généralement, on retombe dans des formes de sentimentalité très lourdes, d'exaltation. Enfin, en ce qui me concerne, après, il y a des... Si, enfin, je pense... Ou alors, quand c'est contrôlé, que c'est vraiment vécu comme une expérience clinique. Michaud, par exemple, mais... enfin, c'est des textes brefs. Et puis, c'est même pas l'essentiel de l'œuvre de Michaud, d'ailleurs.
Vous, vous n'écrivez jamais mieux que quand, finalement, à tête reposée, le matin, le midi, le soir, quand vous voyagez, parce qu'on a commencé à parler de vos voyages, vous accumulez des notes, des souvenirs, des images, et après vous écrivez en rentrant, ou vous écrivez déjà pendant le voyage, pendant le mouvement, pendant le déplacement?
Non, je ne fais jamais rien de plus en voyage ou simplement en déplacement, c'est-à-dire dans le cas aussi bien de la ceinture parisienne, par exemple. Je ne fais jamais plus que prendre des notes. De l'autre, autrefois, je faisais également pas mal de croquis. J'en fais de moins en moins parce que je sais de moins en moins dessiner. Oui, incidemment, là, j'ouvre une parenthèse pour dire que mon désir plus jeune était de dessiner et pas d'écrire. Moi, j'ai même essayé d'en faire un métier avant de me mettre à écrire. Mais maintenant, c'est fini. Donc, je prends des notes. Ce qui d'ailleurs parfois, ça tout le monde l'a éprouvé, n'est pas facile, quoi, parce qu'on se fait assez facilement aussi une mauvaise réputation, en prenant des notes dans la rue. Tant qu'on se fait la réputation d'un dément, ça n'est pas très grave, parce que ça n'inspire pas une grande frayeur, mais j'ai jamais écrit une page satisfaisante en voyage, jamais. D'autant plus que je ne sais absolument pas, en général, quand je prends des notes. Bon, alors, le cas du reportage est différent. De toute façon, le reportage, on n'a pas le choix, on l'écrit forcément. On écrit le papier quand on est en reportage. Encore qu'on puisse aussi l'écrire à son retour. Mais bon, bref, quand je prends des notes en voyage pour un livre, je ne sais généralement pas à quoi elles me serviront. Et je veux dire, c'est une chose là aussi très banale que tout le monde, je pense, a constaté. En tout cas, mon frère, par exemple, comme moi-même, c'est que les trucs dont on se frotte les mains en disant ça va faire un bon morceau, bien juteux et bien savoureux. Finalement, c'est pour ça qu'on n'a rien à en dire, que c'est pas. Et alors que quelque chose, c'est pour ça qu'il faut absolument tout noter, quoi, parce qu'un truc apparemment insignifiant peut donner lieu à quelque chose de bien ou d'intéressant.
Donc vous êtes en voyage, vous remplissez vos petits carnets, on ne citera pas la marque, enfin vous avez des petits carnets à ligne, les remplissez d'idées, de petites choses vues, entendues.
Non, pas de marque, c'est des trucs qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est pareil, là aussi je connais des écrivains très estimables qui ne peuvent utiliser que des machins, je sais pas quoi, moi pas. Juste, il faut que ce soit des trucs à spirale pour enlever facilement les pages, mais c'est tout.
Des croquis sur les nappes de restaurant. Vous rentrez à la maison?
Non, oui.
Vous avez un chez-vous? Il y a un endroit où vous aimez particulièrement écrire? Justement, pas chez vous, au café?
Il y a un autre truc dont j'ai horreur. Et là, une fois de plus, quand j'ai dit que j'en ai horreur, je sais aussi que je connais moi-même des écrivains très estimables et probablement d'ailleurs des amis qui ne craignent pas de dire qu'ils se lèvent tous les matins à 6h, qu'ils boivent un thé brûlant, qu'ils vont courir pendant 1 heure, qu'après, à 8h pétantes, ils sont devant leur table de travail jusqu'à 11h, après une légère collation. D'abord, moi, ça, je trouve que c'est pas intéressant, ça me rend malade, et en outre, je travaille pas comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je travaille, comme je pense à peu près tout le monde, mieux le matin que le soir. Puisqu'en plus, je n'écris pas en état d'ébriété.
Donc chez vous, vous avez un bureau?
Non, pas chez moi.
Un crayon, une machine à écrire, un ordinateur?
Non, j'écris à la main. J'ai une technique assez archaïque.
Vous êtes un mohican, en fait.
J'écris à la main sur des blocs, à la main au stylo, sur des blocs sténo. Et après, j'enregistre ça sur des cassettes audio. Un article qui a déjà pratiquement disparu, et je le fais taper par la même personne qui est une amie d'ailleurs depuis que j'ai commencé à écrire des livres, je pense.
Et là, vous raturez.
Elle a l'habitude.
Vous raturez et elle doit tout retaper.
Non, une fois que c'est. Non, quand je lui remets ça, quand je le dicte, quand je l'enregistre, normalement, il n'y a plus que de mon point de vue, que des corrections minimes à faire.
Jean Rollin, invité de cette masterclass spéciale, merci d'être avec nous. L'organisation, votre ouvrage, vous en avez parlé tout à l'heure, roman autobiographique paru en 96, retour sur vos années de militantisme maoïste, sur ce temps de votre vie que sera celui de l'engagement révolutionnaire, plus tard encore avec Savannah, que vous avez peut-être, pas vous-même, je ne sais pas, qualifié. Il y avait cette idée de roman pèlerinage qui est très très belle, un récit à la mémoire aussi de Kate Berry, une amie très proche des lieux que vous avez traversés ensemble et que vous reparcourez. La littérature, Jean Rollin, est-ce qu'elle permet aussi la rétrospection, voire l'introspection. Est-ce qu'il y a l'idée quand même, dans l'écriture, de faire œuvre de mémoire ?
Oui, certainement. Enfin, mais là, vous avez cité deux exemples complètement différents, quoi. Donc je ne sais pas très bien. Enfin, ces deux livres, ils n'ont absolument pas le même statut pour moi, quoi. Savannah, c'est quand même tout à fait à part dans mon travail. Enfin, même si j'ai malheureusement 20 ans plus tôt écrit un livre de qu'on pourrait lui comparer, qui s'appelle Joséphine. Bon, d'abord, c'est deux livres, justement, dont je ne saurais pas très bien quoi dire, bon, et qui sont tout à fait à part dans mon travail. Hein. Donc, est-ce que je pense qu'on peut... Enfin, je pense rien, je me fais aucune illusion. Je pense qu'on a, en tout cas, soi-même, à la fois l'illusion et le désir de conserver quelque chose d'une personne disparue ou morte, pour dire les choses comme elles sont, bon, en écrivant... voilà, en essayant de rassembler comme ça des fragments de la vie de cette personne. Enfin, je n'aurais jamais fait cela si l'une et l'autre personne n'étaient pas mortes de manière tout à fait prématurée. Enfin, je ne sais pas du tout. Donc, c'est complètement à part, quoi, dans mon travail.
Donc, vous le considérez comment, quel statut? Parce que tous vos romans ou tous vos récits ou tous vos livres sont à part quelque part. L'organisation, vous en avez pas fait. Deux comme ce livre-là non plus.
Ah oui, non, mais ça, je suis très content de ne pas avoir fait de livres qui se ressemblent. Je suis pas sûr que ce soit vrai, d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est mon souhait, bien sûr. Oui, non, je disais à part, c'est que enfin, je sais pas, il me semblait avoir dit qu'il s'agissait de rassembler, voilà, voilà, j'ai pas tellement envie de parler de ces deux livres-là, des autres.
Mais de l'organisation, justement.
Dans le cas de l'organisation, ou d'un autre livre qui s'appelle Campagne, bon, qui parle de la guerre en Yougoslavie, enfin, en Bosnie, c'est vrai que là, c'est aussi autobiographique, et c'est aussi, alors vraiment dans le dessin de l'un et l'autre, à des dates évidemment différentes, je les ai écrits en me disant, bon sang, je commence à tout oublier de cette expérience ou de cette période, voilà, si j'écris pas quelque chose maintenant, ce sera trop tard par la suite.
Est-ce qu'il y a l'idée aussi revenir, l'importance pour l'écrivain de revenir sur sa vie, sur son parcours, sur des moments vécus? Est-ce que l'écriture permet ça aussi, ou la littérature plus largement?
Oui, les deux exemples que j'ai cités, enfin, qui sont très différents, parce que dans le cas de l'organisation, je décris effectivement une expérience ou des expériences personnelles, bon, celle que j'ai faite, enfin, à ma façon, qui n'est pas celle de beaucoup d'autres, bon, du militantisme politique, et par la suite de la défonce, pour parler en langage courant, bon. Tandis que dans Campagne, il s'agit de reconstituer, comme ça, de retracer, une espèce de petit tableau de la guerre en Bosnie, tel que j'ai pu la vivre, enfin, ou en tout cas, la côtoyer, voilà. Mais je parle, enfin, Campagne n'a pas un caractère autobiographique. C'est pas ma vie que je raconte dans Campagne, alors que dans l'organisation, même si c'est supposé être un roman, c'est en effet, dans l'ensemble, autobiographique. Oui.
De ces années d'action collective, de ces années de vie de groupe, on a surtout le sentiment que vous avez retiré, mais peut-être que je me trompe une fois encore, un goût particulier pour la solitude. Est-ce que vous diriez que vous restez un écrivain, voire un voyageur solitaire, Jean Rollin?
Oui, enfin, je pense, j'allais dire comme Marcel Proust, hein, pas pour manquer de simplicité, hein, mais... Non, mais je pense qu'on ne voit les choses que quand on est seul, quoi. Ce qu'on voit quand on est avec quelqu'un, c'est complètement différent. On voit le plaisir ou le déplaisir qu'on a d'être avec cette personne. Et tout est filtré par ce plaisir ou ce déplaisir, non pas pour s'immerger dans les choses qui veulent rien dire, mais pour être véritablement attentif aux choses, à ce qui vous entoure, il faut être seul. Ouais.
Quand on voit des petites choses ou des grandes choses, il arrive souvent, quand ces choses nous ont parlé, qu'on ait envie de les partager. Alors est-ce qu'elle est là, la fonction pour vous de l'écriture? Il y a cette idée du livre, de l'écriture partage avec d'autres.
Oui, on peut aussi retourner dans des lieux qu'on a visités seul pour écrire avec quelqu'un, par exemple. Ça, c'est faisable aussi. Parce que j'ai cette dimension de partager les choses qui me plaisent, mais pas étrangères, bien sûr. Je dis simplement, voilà. Si on part avec le dessein d'écrire, c'est vrai qu'il vaut mieux être ça. Mais c'est aussi parce que, oui, justement, quand on est seul, on s'emmerde, on déprime, et tout ça, ça crée un état qui est plus propice au travail d'écriture, à mon avis.
Qui vous lit? Qui vous relit?
Qui me lit? Un nombre limité de personnes.
Non, avant la publication, Jean Rollin. Est-ce qu'il y a un regard, dans lequel vous avez confiance, quelqu'un à qui vous soumettez vos manuscrits, à part votre éditeur, des proches, des amis, quelqu'un à qui vous aimez faire lire vos livres avant de les envoyer à l'auditeur, à l'éditeur.
Pas non, à part mon éditeur, non. Je veux dire, il faudrait que je réponde en deux parties, parce que il y a un très petit nombre de gens, d'ailleurs, un nombre excessivement petit, on va dire peut-être deux personnes ou trois, au jugement desquels je fais véritablement confiance. Quand je dis au jugement desquels, je vois bien que c'est parce que c'est des personnes qui aiment les mêmes livres que moi, etc. Donc c'est tout. Et qui n'aiment pas les mêmes livres que moi. Bon. Donc je pourrais, en effet, m'en remettre à leur jugement, qui est très important pour moi. Mais je pense que c'est une... Tout éditeur est un métier. Il n'y a qu'un éditeur qui puisse supporter ce choc. Enfin, je ne veux pas dire par là non plus que mes livres soient tellement bouleversants. Mais c'est... le choc, c'est peut-être pas le mot exact, quoi, mais la responsabilité de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux que le précédent, c'est moins bien que le précédent, etc., elle incombe à l'éditeur et à personne d'autre. J'ai eu une fois le malheur de soumettre trois textes brefs, en plus. Libération avait un été décidé de publier des nouvelles. Bon, moi, je collaborais à Libération comme journaliste, mais je voulais saisir cette occasion de publier des nouvelles. Et j'en ai écrit trois, des petites nouvelles, et j'ai eu le malheur de les soumettre, quand on dit ma compagne, on se croirait au Parti communiste, à la femme que j'aimais à l'époque, quoi, voilà, bon. Et dans le jugement comptait beaucoup pour moi, bien sûr, le jugement, y compris littéraire, bon, et ça a été une catastrophe, quoi. Parce qu'elle m'a dit que la première était bien et que les deux autres étaient le rabâchage de la première, et que, voilà. Et ça m'a mis dans un état de fureur démente, pas contre elle, je précise, contre moi, bon. Et j'ai bazardé les trois, alors qu'en plus son jugement, je pense, était parfaitement juste. C'est-à-dire que je pense que la première était bien et que les deux autres n'étaient pas. Voilà. Et bien, donc j'ai tout foutu en l'air. Et donc c'est pas. Non, je dis c'est trop de. On peut pas faire. Soit il faut vivre en couple, déjà ce qui n'est pas mon cas, et avoir une compagne ou un compagnon qui relève de cette catégorie que, je sais pas, mon ami Alain Techman appelait la femme de peintre, c'est un type psychologique, la femme de peintre, donc qui trouve bien tout ce que fait son mari, y compris quand il se bourre la gueule, etc., bon, et à ce moment-là, on lui dit « Chérie, qu'est-ce que t'en penses ?» Elle dit « C'est génial, bon, voilà. » Mais si on ne vit pas dans un dispositif de ce genre, on ne peut pas faire supporter ça à quelqu'un. Hein.
Est-ce qu'on progresse dans son art, entre guillemets, Jean Rollin ? Vous racontez qu'à vos débuts, notamment, vous teniez des listes de mots rares, que vous aimiez bien les mots un peu fantaisistes, farfelus, des mots exubérants qui sonnaient bien. Est-ce qu'avec le temps, vous avez rendu votre écriture peut-être plus libre qu'aujourd'hui ?
Ah, je précise quand même que je n'ai jamais dit que je faisais des listes de mots, et que d'ailleurs je n'en ai jamais fait.
Ah, moi, j'aime bien cette idée. Vous l'avez jamais dit vraiment?
Non.
Est-ce que vous vous souviendrez de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, dans quelques années?
Je pensais l'avoir dit. Ce que j'ai dit, c'est que je trouvais l'écriture de mon premier livre qu'on a évoqué tout à l'heure, La Chemin d'eau, beaucoup trop riche. Je trouve que je me vautre un peu dans une certaine forme de préciosité, quoi. Je me souviens, par exemple, d'un truc qui, quand même, maintenant, m'a fait franchement rire, qui était un caillouti légèrement vibratoire. Bon, ça va, quoi. Bon. Et je n'écrirai plus comme ça, maintenant.
Donc, aucune contrainte dans la langue ?
Ah, si, mais justement, celle de la sobriété. Enfin, sobriété, exactitude, si possible, enfin, précision. J'ai un très grand souci d'être exact et précis dans le vocabulaire technique, enfin quand je m'y frotte, hein, que ce soit dans le domaine maritime, dans le domaine militaire, dans le domaine de l'ornithologie, etc. J'ai écrit un livre qui paraîtra dans quelques mois, bon, où il y a une dimension ornithologique importante, enfin il y a énormément d'oiseaux et de scènes d'oiseaux qui apparaissent dans ce livre. Et je l'ai soumis à deux ornithologues, dont l'un est un ami, donc il peut être inspiré par une certaine indulgence. L'autre est quelqu'un que j'aime bien, mais ça n'est pas un ami. Et c'est une sommité dans sa discipline. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas une faute ornithologique. Là, j'étais vachement fier. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire du livre en question. Il est peut-être complètement raté par ailleurs, mais en tout cas, il n'y a aucune faute ornithologique.
Bon point. À part cette première œuvre, un peu à l'écriture un peu ampoulée, Est-ce que parmi les livres que vous avez écrits, il y en a que vous regrettez aujourd'hui ? Vous êtes un mélancolique, mais est-ce que vous êtes aussi un homme de regrets ?
Non, mais je ne pourrais pas. Enfin, bien entendu, j'ai pas pu venir écouter Jean Echenoz, que j'aurais fait volontiers. Mais j'ai quand même eu des échos de sa prestation ici même. Et Jean dit, je crois, que qu'il ne se relit jamais, enfin, qu'il ne relit jamais ses livres anciens parce que, ça provoquerait chez lui soit un accès de modestie, soit un accès de vanité. Voilà. Il trouverait ça génial ou nul. Bon, voilà, moi, je pourrais dire un peu la même chose, sauf que moi, ça m'arrive de les relire, mais pour des raisons techniques, quoi. Mais plutôt, d'ailleurs, des reportages, hein, pour voir. Mais il n'y a pas de. Un livre dont j'aurais honte. Non, enfin, si j'avais. Je ne sais quoi, moi, louer un génocide, je pourrais en avoir honte, mais j'ai jamais rien fait de tel. Non, mais je veux pas dire ça, parce que ce serait inamical pour l'ami, justement, qui a eu la gentillesse de le rééditer il y a pas longtemps. J'étais pas très chaud, moi, pour rééditer, justement, Chemin d'eau, parce que j'en ai certes pas honte, je n'ai pas le rouge au front quand j'y pense, mais je suis gêné par la préciosité du vocabulaire. Voilà.
Mais il faut le rééditer, ce Chemin d'eau, parce que vous en avez beaucoup parlé quand même. Hein.
Bah non, c'est un livre déclencheur. C'est le premier, mais il est réédité. Il est réédité. Je peux le dire d'ailleurs. Il est dans La Petite Vermillon à la Table Ronde. Voilà. J'espère que j'ai pas dit une connerie. Non, c'est ça, oui.
Et un livre que vous regretteriez parce que trop impudique ou parce que vous l'écririez différemment aujourd'hui avec d'autres mots, avec d'autres personnages?
Non, je pense pas, non.
Vous assumez tout.
Oui, mais je dis, c'est vrai que il y en a que, je sais pas, j'ai écrit un ou deux livres, j'ai écrit un livre en particulier dont l'insuccès a été véritablement formidable, chez Gallimard, qui s'appelle Cyril et Méthode, mais même de celui-là, j'ai pas honte, moi je pense qu'il était pas si mauvais que ça, mais c'est vrai que je l'ai pas relu, hein. Et je sais qu'en tout cas, ça n'a pas plu, hein.
Vous aimez rencontrer vos lecteurs?
Eh bien, oui, si, bien sûr. Non, mais parfois, oui, bien sûr. Oui. Si. Non, c'est, je sais pas quoi. Vous savez, c'est toujours un peu embarrassant parce que si des gens vous disent du mal de vos livres, on a envie de leur taper dessus. Et si vous en disent du bien, on minaude et on est très gêné. Donc c'est pas, c'est pas très facile, mais. Mais oui, non, j'aime mieux quand quelqu'un me dit j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup aimé ton dernier livre. Ça me convient parfaitement.
Est-ce que vous vous souciez de l'image que vous donnez de vous à travers vos livres, à vos lecteurs, à votre public?
Probablement que oui, mais je sais pas. Franchement, je n'ai pas le sentiment de m'en soucier beaucoup, mais certainement si. Enfin, de toute façon, on se compose. Et surtout, dans mes livres pas fictifs ou semi-fictifs, comme il y a un jeu qui est quand même, enfin, un narrateur qui est très présent, bien entendu, ce narrateur, je le soigne quand même, ce personnage, je le soigne, je m'efforce de lui donner certains traits qui sont sans doute ceux que j'aimerais qu'on me prête, quoi. Mais je n'y pense pas trop, quoi. En me levant, dit l'autre, en me rasant, pardon.
Ouais, c'est comme ça. Quand on écrit des livres, on a quand même l'espoir que cet objet livre va rester et avec la mémoire, le souvenir de qui on est et de ce qu'on a voulu peut-être transmettre. Est-ce que ça, c'est un souci que vous avez, peut-être pas forcément de la trace que vous laisserez quand vous serez mort, mais en tout cas de la continuité, de la cohérence de l'œuvre que vous êtes en train de construire, Jean Rollin? Parce qu'après plus de 20 livres, on peut quand même se poser cette question-là.
Précédente, c'est vrai que si, au fond, on est forcément soucieux de l'image de soi qu'on donne à travers ces livres, bien sûr que si, quoi, bien sûr que si. Bien sûr qu'on n'écrit pas en disant, ah, putain, là, je vais donner une sacrément bonne image de moi. Bon, non, mais en revanche, évidemment qu'on en est soucieux. On ne se sent pas porté ou bridé par ce souci, mais on l'a forcément, oui, bien sûr.
Et sur la question d'après? Sur la cohérence, éventuellement, entre vos livres, sur la continuité que vous cherchez à créer.
J'espère qu'il y en a une cohérence, oui. Oui, j'espère que. Enfin, ce que j'espère, c'est qu'à la fois, c'est un ensemble relativement cohérent et relativement divers. C'est-à-dire que que les lecteurs n'aient pas l'impression de lire toujours le même livre.
La reconnaissance, après plus de 20 bouquins publiés, vous avez le sentiment de l'avoir eue déjà ? C'est quand même quelque chose que vous recherchez encore. Je rappelle un prix Albert Londres, le prix c'est quoi, de la langue française, le prix Médicis et beaucoup d'autres encore. Est-ce qu'à travers notamment ces couronnements de la profession, de vos pairs, vous avez le sentiment d'avoir acquis cette reconnaissance-là, en plus de celle du public, de vos lecteurs ?
Non, mais écoutez, les prix, c'est pas forcément le meilleur exemple, hein, parce que bon, il y a toujours un côté aléatoire. Hein. Vous savez très bien qu'on peut même avoir un prix parce que le jury n'a pas voulu le donner à un autre. Enfin bon, j'étais très content moi de recevoir des prix.
Mais, ça fait toujours plaisir.
Oui, bien sûr, oui. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'être un meilleur ou un bon écrivain parce que j'avais ou que je n'avais pas obtenu tel ou tel prix. Quoi. Après la reconnaissance. Je sais pas, j'ai pas l'impression de jouir d'une reconnaissance immense. Hein, bon, ça va, quoi. Je pense que j'ai un public de quoi. C'est ça le sens de votre question. Je pense qu'il y a quelques milliers, un petit nombre de milliers de personnes qui me lient, semble-t-il, assez fidèlement. Et voilà, hein, sans trop se plaindre. Mais le. Et alors après, est-ce que j'aimerais. Oui, peut-être. Oui, si, je pense que j'aimerais parfois. Vendre 200 000 exemplaires d'un livre. Voilà, c'est vrai que ça ne me déplairait pas. D'abord, ça me permettrait de m'acheter une maison, par exemple. Et puis, je me dis, merde, pourquoi de temps en temps, pas 200 000 exemplaires d'un livre. Ah, je dis, Britney Spears, quand même, ça intéresse tout le monde. Non, mais donc forcément, on a un peu ce désir. Mais enfin, je ne veux pas dire non plus que ça me tracasse énormément, quand même.
Le best-seller.
Non, si, je sais que ah. Oui, si. Je peux dire, alors, comme récrimination, quand même, que la. Je regrette de n'être pas plus traduit, voilà, parce que c'est quand même sympathique de, comme vous savez, pour des livres à un tirage modeste, ça vous rapporte de toute façon des clopinettes d'être traduit, mais en revanche, j'aimerais qu'on puisse me lire dans d'autres langues, mais en même temps, je pense que c'est difficile. C'est ce qu'on me dit, hein, parce que c'est, puisque il y a pas vraiment d'histoire, enfin bon, bref, ça doit pas être commode à traduire, en effet. Enfin, en tout cas, c'est vrai que j'ai assez peu de traductions, et que ça, que quelquefois, je le regrette, oui.
Vous êtes en train d'écrire en ce moment ?
Non, je suis en train de préparer le travail préparatoire à un livre.
C'est-à-dire le voyage qui.
Je regarde des cartes.
Oui, c'est ça.
En me demandant si ça vaut le coup, les ayant regardées, d'aller voir sur place. Mmh.
Votre regard s'est arrêté sur quelle partie du monde ?
Non, ça, je préfère le garder pour moi. Parce que, non, mais si, c'est un peu de superstition. Quand on n'est même pas décidé à partir pour un endroit quelconque, il vaut mieux ne pas en parler. Quoi. Si j'étais décidé, je vous le dirais, mais je ne suis pas décidé.
C'est une zone blanche ou une zone habitée ?
Oh, c'est une zone qui est habitée sur les bords, pas beaucoup dans l'intérieur. Voilà. Mais j'ai pas l'intention de remonter le Roanoke, hein, c'est pas. Voilà, j'ai jamais eu une vocation d'explorateur, j'en ai toujours pas.
Merci beaucoup, Jean Rollin. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu
qu'on me pose ?
Ouais. Toutes sauf celle que je vous ai posée.
Non, mais c'était très bien dans l'ensemble vos questions.
Bon ben merci une fois à tous. Merci beaucoup.
C'était la masterclass de Jean Rollin avec Olivia Gesbert. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.